parce que t'as passé la journée hier au palais de justice. Moi, je peux pas faire bien, bien mieux que de rapporter ce que j'ai vu dans les journaux, ce que j'ai vu dans les émissions de TV, puis sur Twitter, même si j'ai eu les yeux rivés là-dessus pas mal toute la journée. Toi, t'étais sur place, donc t'es capable de me dire l'ambiance qui régnait là et qu'est-ce que les gens ont pensé du jugement? Comment les gens ont réagi? Parce que forcément, ben, t'as parlé à beaucoup de monde hier.
Ben, on n'a pas le choix dans ce genre de cause-là. Puis on s'entend que c'est du monde éploré hier. C'est vraiment difficile pour eux, autant lors du prononcé de la sentence qu'après. Ça a pris un bon laps de temps. On pensait qu'ils allaient venir nous donner leur réaction tout de suite après. On a dû attendre au moins là, 20 minutes, une demi-heure. Je me demande si c'est pas plus. Parce qu'ils étaient en rencontre, à savoir comment on le dit, qu'est-ce qu'on dit, mais surtout, on va reprendre un peu sur nous parce qu'ils étaient en pleurs. Plusieurs étaient en pleurs.
Ouais,
c'était un jugement très difficile. Puis c'est loin d'être acceptable pour eux. Ils espéraient qu'Alexandre Bissonnette croupisse en prison, on va le dire comme ça.
Ouais.
Que jamais il ne puisse revoir la lueur du jour. Là.
C'est surtout qu'il y a un des témoignages que j'ai entendu, là, je sais pas si on l'a en audio, mais c'est je suis pas capable de me sortir ça de la tête. C'est possiblement l'une des raisons qui... C'est très personnel, là, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais c'est une des choses qui a le plus influencé mon opinion à l'égard du jugement qui a été rendu, c'est-à-dire perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 40 ans. Il y a des membres de la communauté, un en particulier, là, un des premiers à s'être exprimé, son nom me revient pas, là, mais il a dit, pensez par exemple à, il y a une des personnes là, qui est décédée, un des hommes qui a été tué par Alexandre Bissonnette, ses enfants ont 2 et 4 ans. Ça veut dire que quand Bissonnette pourra faire une demande de libération conditionnelle, et si elle est acceptée, il sera libéré, ces enfants-là qui ont perdu leur père dans un massacre à 42 ans et 44 ans pourraient tomber face à face avec le bourreau de leur père au
exact.
Supermarché.
C'est ce qui revenait souvent. Je pense que chaque membre de la communauté a répété cette phrase-là. C'est ce qui les inquiète le plus. Ils veulent protéger leurs enfants, mais surtout pas qu'ils soient dans la même société que ce jeune homme.
Je suis pas capable de me l'enlever de la tête, celle-là. De penser que les enfants des hommes qui sont morts à la pointe du fusil de Bissonnette pourraient, même si c'est un hasard, tu sais, c'est un concours de circonstances, ce serait un hasard, ils se reconnaîtraient peut-être pas après tout ce temps-là, mais le principe, là, la théorie selon laquelle les enfants rendus quarantenaires des victimes d'Alexandre Bissonnette puissent tomber face à face avec lui dans une épicerie, là, je suis pas capable d'accepter ça, puis je comprends donc à quel point ça peut en révolter certains.
Oui, puis il y en a plusieurs qui ont pris la parole après le jugement qui a été donné par le juge François Huot. On va entendre en premier lieu celui qui a fait beaucoup la manchette dans les derniers mois, Emen Derbali, parce que cet homme-là est maintenant confiné à son fauteuil roulant là, pour tout le reste de sa vie. Rappelez-vous, c'est cet homme-là qui a été héroïque et qui a pris plusieurs balles pour essayer de protéger ses frères.
Tout le monde est surpris. On aurait aimé que la justice soit rendue à toutes les victimes, à ceux qui sont décédés, et que la sentence serait à la hauteur du crime perpétré. C'est une tuerie, c'est un attentat très grave dans un lieu de culte. Le juge il a mentionné 9 conditions aggravantes, et puis quand il a parlé, en fait, sa façon de décrire tout ce qui s'est passé, la détermination, les balles dans les têtes qu'il a données, puis les tentatives de meurtre après ces 40 ans. Moi j'étais surpris d'avoir une éligibilité à 40 ans. Pourquoi il a choisi 40 ans? Pourquoi il n'a pas choisi 50 ans, un cumul de 2, 25 ans? C'est ça la question. Je sais pas. J'étais surpris en tout cas, comme beaucoup de monde.
D'ailleurs, il a parlé de facteurs aggravants qui ont été mentionnés par le juge, là, notamment. Pour ce qui est des facteurs aggravants, il a mentionné le fait que le crime était prémédité, le nombre de victimes était élevé, le lieu du crime aussi a été tenu en considération, c'était un lieu de culte, la vulnérabilité de ces victimes-là, le jeune âge de 4 de ces personnes-là, la violence et le caractère gratuit du crime, sa motivation, les séquelles que garderont les victimes, puis le fait finalement qu'il n'y a aucune peine de prison, même 150 ans, qui peut réellement effacer la souffrance de ces personnes-là. Cela dit, il n'y a pas que des facteurs aggravants, ça vient aussi avec des facteurs atténuants. Le juge a mentionné le fait que Bissonnette n'avait pas d'antécédent, qu'il a collaboré avec la police, son plaidoyer de culpabilité aussi, là, qui a permis d'accélérer le processus.
Ouais.
Il a exprimé des remords dans une lettre qu'il a écrite à un certain moment. La vulnérabilité de l'accusé, ça fait, qu'on le veuille ou non, ça fait partie des facteurs qui ont été considérés dans le jugement, le fait qu'il avait été victime d'intimidation, de rejet, qu'il avait eu des pensées suicidaires, son état mental, souffrait d'anxiété, de dépression, sans pour autant que ça mène à non-responsabilité criminelle, là, ça c'est important de le spécifier. Le support familial, tu l'as dit tantôt, mais le réseau autour de Bissonnette a été considéré comme un facteur atténuant. Son potentiel de réhabilitation, dit-on, et le risque de récidive qui serait présentement modéré. Maintenant, ben, on verra bien à la suite de son incarcération si un jour il est libéré.
Ouais, c'est ça. Parce que même si on donne 40 ans, ça veut pas dire qu'il va sortir au bout du compte. Il va falloir passer un autre processus s'il fait une demande de libération conditionnelle. Et là, je vais vous faire entendre un truc qui a été le premier à parler, en fait, sur place. Il s'appelle Emin Chedadi. Il est un survivant de cette tuerie-là.
Lui, il peut demander la libération conditionnelle après 40 ans. Ça veut dire qu'il va avoir à peu près 70 ans et un enfant des gens qui ont perdu la mort, elle aura 42 ans ou, 40 ans ou 44 ans. Là, il peut, ces enfants, ils peuvent toujours rencontrer le tueur de leur papa dans un supermarché. C'est ça ce qui m'a touché.
Tu vois, c'est exactement de lui dont je te parlais.
Ouais.
M. Chedadi, quand je l'ai entendu, je me suis dit, je sais pas, je sais pas comment je pourrais penser que ce gars-là n'a pas raison, là.
Oui, mais c'est hyper émotif, puis sérieusement, comment penser autrement, là? C'est impossible que ces gens-là ne soient pas émotifs. Même pour certains, il y a peut-être un esprit de « je veux que justice soit rendue beaucoup plus que selon les lois et tout ça mm-hmm. ». Mais le juge François Huot a répété à plusieurs reprises qu'il était profondément dérangé par les gestes d'Alexandre Bissonnette, même disant que c'est un crime qui était absolument atroce, mais qui devait s'en tenir à la loi et la législation. Un autre que je vais vous faire entendre, bien sûr, il parle souvent depuis cet attentat du 9 janvier 2017, Boufeldja Ben Abdallah, qui est le cofondateur du Centre culturel islamique de Québec.
Les gens étaient là-bas complètement démolis. Mais ce n'est pas la colère qui nous domine, c'est la déception qui nous domine. Et c'est l'espoir que cela va se transformer en paix, en dignité pour toutes les personnes de cette belle province. C'est ça qu'on veut faire appel. Et on veut faire appel à la société québécoise de nous comprendre, de comprendre la douleur dans lequel on est aujourd'hui. De comprendre la déception dans laquelle on est aujourd'hui. Nous n'en voulons à personne, mais nous voulons que cette dignité soit celle de tous les citoyens, et les citoyens musulmans en premier lieu, parce qu'ils sont bafoués plusieurs fois.
Ouais.
Ça a été perçu là, comme étant excessivement clément par les proches de la communauté musulmane, ce jugement-là du juge François Huot. C'est la grande déception. Mais du côté de la couronne, du côté de la défense, on a pris la parole simplement pour dire, regardez, on va se pencher là-dessus, on va voir si on ira en appel. On a 30 jours pour le faire, mais un jugement de 246 pages, j'ai vraiment aimé comment tu l'as dit, il faut se lever tôt.
Parce que si ça a pris 6 heures, là, puis moi je te dis, peut-être qu'à un moment donné, vous arrachiez les cheveux de sa tête là, dans la salle au palais, mais moi j'ai apprécié le fait que le juge Huot prenne son temps à ce point-là. Puis je vous parle pas du fait que du jugement au final. Je pense que même s'il n'y avait pas eu cette histoire de réécrire la loi, mm-hmm. puis parce que tel article est anticonstitutionnel, puis malgré ça, dans un cas aussi grave que l'attentat à la mosquée, aussi médiatisé. Moi, je pense aussi, comme m'a dit le juge Huot, que ça a eu comme impact de briser un peu plus le tissu social. Là.
Mais c'est les mots qu'il a employés. Ouais.
Moi, je dénonce les politiciens qui font du millage sur le fait qu'on souffre sur les braises de l'intolérance, ces affaires-là, qui utilise la question, par exemple, de l'immigration, des signes religieux pour faire faire des gains politiques. Mmh. Ouais. J'ai toujours dénoncé ça, puis je vais continuer de le faire. Mmh. Mais je pense, comme le juge Huot, que un attentat comme celui-là, ça vient morceler un peu plus le tissu social. Et en raison de ça, c'est important à quelque part qu'il fasse une espèce d'éducation, là, tu sais, qui nous, ben, pas une éducation, mais qui nous explique son jugement de sorte que ça vienne modérer. Après ça, nous autres, on commente, puis on n'est pas des spécialistes, puis il y a des chroniqueurs qui vont écrire là-dessus toute la semaine, puis c'est ça notre travail. Mais quand le juge fait ce travail-là, auprès des journalistes, auprès de la population, auprès de la communauté, ça vient, à mon sens, ressouder un peu ce qui a été brisé d'une certaine manière.
Ben, il l'a dit, à ce moment-là, le 29 janvier, c'est Québec qui s'est recouvert d'un linceul de honte, de crainte, de suspicion. Il disait qu'on sentait très bien la division. Puis l'image qu'il a employée, c'est vraiment ça, là, que ça a été une déchirure du tissu social. Mais il dit, le mal n'a pas eu le dernier mot. Parce qu'au courant des mois qui ont suivi, on a vu quand même des rassemblements de personnes issus de n'importe quelle communauté qui était là pour appuyer les autres. Mais ce qui est difficile pour la communauté musulmane ce matin, c'est qu'ils se penchent beaucoup sur les facteurs atténuants, disant qu'il y a trop de facteurs atténuants là-dedans. Ça reste un meurtrier, ça reste quelqu'un qui a tué des leurs. Mais il faut voir aussi que quand tu es émotif dans la salle, quand ça te rejoint personnellement, c'est sûr que tu vas entendre beaucoup plus les facteurs atténuants que, par exemple, quand le juge a insisté sur le caractère gratuit, prémédité, sournois et meurtrier de l'attaque d'Alexandre Bissonnette. Il l'a dit à plusieurs reprises et tu dis « Moi, j'ai aimé ça ». Qu'il a pris autant de temps pour expliquer son cheminement. Il faut savoir que, puis là, je prêche pas pour ma paroisse, là, mais avant tout, le juge travaille pas pour les médias. Avant tout, le juge travaille pour la justice. Donc, c'était important. Oui, on a trouvé ça long. Oui, c'était long avant de venir à bout, mais il travaille pour la justice, pas pour nous, les médias.
Mais d'un autre côté, moi, je pense que même si c'est une longue journée, ça a rendu service aux médias certainement. Autant que ça a rendu service à la population. Après, il va y avoir si la poursuite va en appel, si ça va continuer de cheminer, ça va continuer d'évoluer, cette histoire-là, mais je pense que ça, il est venu répondre à bien des questions que les gens se seraient posées de toute façon,
oui,
en faisant son long laïus. Moi, je pense que c'était nécessaire là, dans une situation qui est compliquée comme celle-là.
Mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix parce qu'il faut qu'il explique le cheminement. Pourquoi il est rendu à 40 ans, surtout qu'on n'a jamais vu ça. Puis l'autre affaire, c'est que il y a eu beaucoup de questions. Est-ce que c'est un acte terroriste ou pas? Nous, cette fraction-là du jugement a été enlevée des 6 heures où on était dans la salle, mais ça fait partie du jugement. Jonathan nous en parlera plus tard à l'émission, là, mais ça a été complètement écarté. Il a pris le temps de l'expliquer dans son jugement aussi. Donc, vous voyez qu'il est allé dans les détails. Mais je veux dire, il y a des médias qui trouvaient ça extrêmement long, puis c'est normal, ça a été long, ouais, mais ils travaillent pas pour